puisque nous avons déjà passé une journée ensemble, à nous interroger sur cette question du mystère d'Israël, et ceci en relation avec les temps dans lesquels nous vivons. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous arrêter quelques instants sur quelques versets du livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, où est dépeint ici un culte céleste qui va être notre sujet pour nous ce matin. Après cela, je regardais, voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler me dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite ». Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur son trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel et il avait l'aspect d'une émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes et sur ces trônes, 24 anciens assis vêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône et adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte qu'il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite qui était assis sur le trône. Et quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation et de tout peuple. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu notre Père et ils régneront sur la terre. » Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Nous avons ici, dans ce livre de l'Apocalypse, la description d'un culte céleste. Le livre de l'Apocalypse, contrairement à ce que l'on pense généralement, n'est pas un livre de catastrophe, de jugement, de cataclysme, etc. C'est aussi cela, c'est vrai. Mais il y a aussi l'aspect positif de la rédemption finale que le Seigneur veut apporter. Et il y a deux perspectives qui sont toujours ouvertes par l'auteur de notre livre. La première, c'est effectivement ce qui se passe sur la Terre, ce qui est souvent caractérisé par des fléaux et par des jugements. Et il y a aussi ce qui se passe dans le ciel, qui est caractérisé par la gloire, la joie et le triomphe du Seigneur, de sa parole et de l'agneau. Et la méditation que je vous apporterai ce matin doit beaucoup aux travaux et recherches du professeur Pierre Prigent de l'Université de Strasbourg, qui a beaucoup travaillé sur et le livre de l'Apocalypse d'une part, et sur le culte de l'Église ancienne, à partir de différents documents qui nous sont parvenus de cette période-là. Et au cours de ses travaux et de ses recherches, le professeur Prigent a constaté qu'il y a une étrange ressemblance entre ce culte qui nous est décrit ici dans le livre de l'Apocalypse et la manière dont les premiers chrétiens pratiquaient eux-mêmes leur propre culte. Mais il est allé encore beaucoup plus loin et il a constaté qu'il y a une similitude aussi entre ce culte de l'Église ancienne tel qu'il nous est décrit dans les anciens documents qui nous sont parvenus et le culte de la synagogue. Et que l'on retrouve aussi dans ces chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse, une description du culte de la synagogue tel qu'il est encore pratiqué aujourd'hui et qui a servi de modèle au culte de l'Église ancienne et d'une certaine manière aussi, finalement, de tous nos cultes tels que nous les pratiquons encore de nos jours. Et la place qui est donnée par Jean à la description de ce culte, avec tous les détails qu'il nous donne, nous montre que, pour lui, ce culte céleste et, par conséquent, le culte de l'Église sont une réalité essentielle dans la manifestation des choses dernières. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous allons essayer de comprendre et de découvrir. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà participé à un culte dans une synagogue juive, un service de Shabbat le samedi matin. Bien souvent, le problème, évidemment, c'est aussi que ces choses sont dites en hébreu. Et peu de chrétiens sont capables de comprendre et de suivre le déroulement du culte. Mais grosso modo, je vais vous en donner l'essentiel. Et si effectivement il vous arrive par la suite d'aller dans un culte juif de la synagogue, eh bien vous pourrez comprendre un peu plus peut-être ce qui se passe que si vous n'êtes pas du tout averti de la manière dont se déroule un culte dans la synagogue. Le culte de la synagogue comprend en fait quatre parties essentielles. Il est composé essentiellement de prières, de louanges faites à Dieu, et en quatre temps forts. La première partie du culte s'appelle en hébreu le yotzer. Yotzer signifie littéralement celui qui fabrique. C'est un mot qui est employé aussi pour désigner, par exemple, un artisan et plus spécialement un potier. Un potier est un yotzer. Et en même temps, par extension, yotzer, c'est celui qui crée. Par conséquent, yotzer, c'est un créateur. Et quel est le créateur de toutes choses? Quel est le créateur de l'univers? C'est évidemment Dieu. Et la première partie du culte de la synagogue consiste à bénir Dieu en tant que créateur. Parce que personne ne peut se présenter devant Dieu. Personne ne peut obtenir de Dieu une rédemption, une bénédiction, s'il ne reconnaît pas Dieu comme son créateur et s'il ne se reconnaît pas comme une créature. Et un des drames de notre temps, dans notre société, c'est que l'homme moderne ne veut plus se reconnaître comme une créature de Dieu. Et ce faisant, il ne veut plus dépendre de Dieu. On préfère descendre du singe, c'est moins contraignant. parce qu'on n'a aucun compte à rendre au singe, si le singe est notre créateur. Par contre, si Dieu est notre créateur, alors effectivement, il a le droit de nous demander des comptes. Et c'est la raison pour laquelle il est indispensable, quand on se présente devant Dieu, d'honorer Dieu d'abord en tant que créateur. Et cette première partie du culte de la synagogue, donc le temps du Yotzer, se compose de prières qui sont inspirées des premiers chapitres du livre du prophète Ézéchiel. Ces premiers chapitres sont très étranges. Le prophète a une vision des choses célestes, et une vision du temple, d'abord du temple terrestre, mais également du temple céleste, parce que justement, il y a ces deux réalités. Il y a un temple terrestre qui n'est que la reproduction du temple céleste. Ainsi qu'il est écrit, on lit ça dans l'Épître aux Hébreux, « Tu feras tout selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. » Et la tradition juive nous dit que lorsque Moïse est monté sur le Sinaï, le ciel s'est ouvert, il a vu le temple céleste et il l'a reproduit en ce qui concernait le temple portatif qui était le tabernacle dans un premier temps et qui ensuite devait être le temple construit par Salomon dans un deuxième temps. Donc il y a deux temples, un temple céleste et un temple terrestre. Et le prophète voit d'abord dans le temple terrestre où il se trouve, et ensuite il est introduit dans le temple céleste, et là il voit la gloire de Dieu. Et nous avons une description très étrange de cette gloire de Dieu. On sent que le prophète a fait une expérience profonde de choses qui sont tellement sublimes, tellement au-dessus de tout ce qu'un langage humain peut exprimer, qu'il a du mal à justement écrire et exprimer ce qu'il a vu. Il emploie des formules qui peuvent sembler même parfois un peu maladroites et difficiles à comprendre parce que ce sont des choses qui dépassent la compréhension humaine, ce sont des choses qui dépassent l'être humain, comme le dira l'apôtre Paul quand il fera une expérience un peu semblable, disant qu'il a entendu des choses qu'il est impossible à un homme de répéter. Et il est question donc du trône du Seigneur, avec des pierres précieuses, avec l'arc-en-ciel, avec une mer de cristal, bref, tout un ensemble de réalités qui manifestent cette extraordinaire gloire de Dieu. Et en plus de ça, il y a quelque chose de dynamique dans cette vision. Ce trône de Dieu est un char avec des roues. Et ces roues, elles sont remplies d'yeux en dedans et en dehors, et ce sont des êtres animés. En hébreu, on appelle cela des Ophnaïm. Et cette idée, l'idée c'est que ces Ophnaïm sont une certaine catégorie d'anges. Ce ne sont pas des réalités inertes, inanimées, mais ce sont des êtres vivants qui supportent en quelque sorte cette gloire de Dieu qui repose sur eux. Et puis, c'est ce char de l'Éternel, qu'on appelle en hébreu la Merkava, est tiré par quatre êtres aussi assez extraordinaires que l'on appelle des Krouvim en hébreu. Krouvim, ça vient de la racine Karov, qui signifie être proche. Et en français, on traduit cette expression par des chérubins. Et les Krouvim ou les chérubins, ce sont des êtres qui sont les plus proches de Dieu. Ça veut dire que ce sont des êtres particulièrement saints. Et tout cet ensemble du char de l'Éternel, ces roues, ces chérubins sont en mouvement permanent et il y a du feu qui circule, il y a une énergie qu'on appelle aussi Hashmal, que le prophète appelle Hashmal, qui a donné en hébreu moderne l'électricité, donc ici une énergie qui coule dans toutes ces choses. Et la tradition juive nous dit qu'en réalité, ce que le prophète a vu, c'est justement le miracle de la création. Dieu assis sur son trône au moment où il a créé l'univers. Et cet univers qui est animé par cette énergie extraordinaire qui se manifestait justement et qui se manifeste encore parce que Dieu est celui non seulement qui crée toutes choses, mais aussi qui les soutient par sa parole. Et c'est cette vision que l'on exprime dans cette première partie de ce culte de la synagogue, ce qu'on appelle la Yetzira, la création de Dieu. Et c'est ainsi que nous retrouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse cette même réalité. Après cela, je regardais, et voici, je fus ravi en esprit, et je vis quelqu'un qui était assis sur le trône. Il avait l'aspect de sardoine, il était environné d'un arc-en-ciel, et il avait l'aspect de l'émeraude. C'est ce que nous retrouvons dans la vision d'Ézéchiel. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant les trônes brûlent sept lampes ardentes. Et devant le trône, il y a comme une mer de fer semblable à du cristal. Puis ensuite, description des quatre êtres vivants. Et dans cette première partie, il y a donc cette proclamation de la gloire de Dieu qui est manifeste pour tout homme dans la création. Paul nous rappelle ça aussi, que ceux qui ne veulent pas voir cette gloire sont inexcusables. Et ceux qui veulent justement ne pas rendre gloire à Dieu en tant que créateur et se reconnaître comme des créatures de Dieu sont très très loin de ce que la volonté de Dieu. Et dans ce temps du Yotzer, non seulement on cite ces textes du début du livre du prophète Ézéchiel, mais on lit aussi un psaume, qui est le psaume 104. Le psaume 104 est le psaume de la création. Il rappelle justement la création de Dieu. Et il s'achève de la manière suivante. « Tu envoies ton souffle, ou plus exactement ton esprit, et tous les êtres sont créés. Ces êtres qui ont été énumérés auparavant, notamment les animaux. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. » Et tu renouvelles la surface de la terre. Et je vais vous lire un extrait justement de la prière qui est lue dans la synagogue dans ce premier temps. Béni soit le nom du Dieu créateur, celui dont le nom est saint, celui qui siège dans la sainteté. Et à cette prière répondent les roues, les ofnaim, les chayot, c'est-à-dire les chérubins, et qui ne cesse de répéter « Béni sois-tu, notre Dieu, roi de l'univers, toi qui as formé la lumière et les ténèbres, toi qui procures la paix et qui crée toutes choses, toi qui éclaires la terre et qui, chaque jour, renouvelle l'œuvre de ta création. » Citation du psaume 104. « Que tes œuvres sont nombreuses, tu les as toutes faites avec sagesse. » Et voyez-vous, ici, c'est une partie très importante, et notamment cette parole qui dit « Tu envoies ton souffle et tu renouvelles la surface de la terre. » Et notre texte nous dit « Et tous les jours, Dieu renouvelle l'œuvre de sa création. » Et vous savez que pour nous, évangéliques, il y a une doctrine qui est essentielle dans notre piété. C'est la doctrine de la nouvelle naissance. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça veut dire, il faut, par la repentance et la foi en Jésus-Christ, devenir une création nouvelle. Ce que Paul nous rappellera aussi quand il dit, si quelqu'un est dans le Messie, il est une création nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Or, cette doctrine essentielle pour nous, évangéliques, nous la tenons directement de la synagogue. Parce que quand l'Israélite, le matin, le samedi matin, vient de participer au culte, et quand il sort de ce culte, ayant été en contact avec Dieu, en contact avec l'Esprit de Dieu, il a le sentiment qu'il ressort de ce lieu comme une création nouvelle. Dieu l'a recréé. Ça veut dire qu'en le reconnaissant comme son créateur, Dieu renouvelle en lui chaque jour l'œuvre de sa création. D'où l'étonnement de Jésus à l'ironie de Nicodème, qui fait semblant de ne pas comprendre ce que Jésus lui dit quand il lui dit « il faut que vous naissiez de nouveau ». Et un homme peut-il renaître quand il est vieux, dit Nicodème, rentrer dans le sein de sa mère et renaître. Et Jésus lui dit, écoute, Nicodème, Tu sais très bien à quoi je fais allusion. Tu es docteur d'Israël, donc tu sais très bien ce que tu dis chaque samedi matin quand tu es dans la synagogue. Alors arrête, s'il te plaît. Et Nicodème comprend que c'est inutile de discuter davantage. Donc, voyez-vous ici, c'est quelque chose que nous tenons de la synagogue. Et là aussi, chaque fois que nous venons devant Dieu, eh bien, Dieu envoie son souffle, Dieu envoie son esprit. Et si nous avons un cœur ouvert, eh bien, là aussi pour nous, les choses deviennent nouvelles. Et je vous lis maintenant ce que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, verset 11 du chapitre 4. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc ici, nous avons un résumé que nous fait ici l'auteur de l'Apocalypse de cette première partie du culte de la synagogue, le Yotzer, qui a son équivalent dans le ciel, et ce sont les créatures célestes qui célèbrent Dieu pour ce miracle sans cesse renouvelé de la création. Et là aussi, on pourrait s'arrêter aussi sur la science moderne, qui nous rappelle d'une certaine manière que l'existence de l'univers, c'est un miracle permanent. Non seulement c'est un miracle quand il est apparu au commencement, mais qu'il subsiste jusqu'à nos jours, c'est un miracle de tous les instants, parce que justement Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Deuxième temps de la synagogue, c'est ce qu'on appelle la Kedusha. Kedusha, ça vient du mot Kadosh, qui signifie sainteté. Et la Kedusha, donc, c'est le temps où l'on célèbre Dieu pour sa sainteté. Et si, sous-jacent à la première partie du culte, il y avait cette vision inaugurale du prophète Ézéchiel, dans la Kedusha, il y a aussi la vision inaugurale d'un autre prophète, qui est le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, cette vision nous est décrite dans le chapitre 6 de son livre. Lui aussi, comme Ézéchiel, se trouve dans le temple terrestre et il va être transporté en esprit dans le temple céleste. Et là, il voit le Seigneur, le trône de Dieu. Cette fois-ci, c'est une vision beaucoup plus statique que celle que nous avons dans le livre du prophète Ézéchiel. Mais et il nous est dit que le Seigneur est là, au milieu de toute sa gloire. Et il y a aussi des êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu. Ce ne sont plus des chérubins, mais c'est une autre catégorie d'anges que la Bible appelle les tsroufim. Tsroufim, c'est tsaraf au singulier. C'est un mot qui vient d'une racine qui signifie brûler, se consumer. Les tsroufim, ce sont des êtres brûlants, des êtres ardents, des êtres de feu. Et en français, on traduit par des séraphins. Les séraphins, ce sont des flammes de feu. Et la vision du prophète est très claire. Elle nous montre ces êtres de feu qui forment une sorte de cercle autour du trône du Seigneur. Et ce cercle de feu fait en sorte qu'il est impossible de s'approcher de la personne de Dieu lui-même. Ils sont une muraille, ils sont un rempart autour de la gloire du Seigneur. Et ils sont là justement pour faire en sorte, pour protéger la sainteté de Dieu et empêcher que tout ce qui serait souillé, que tout ce qui serait impur et tout ce qui aurait de loin ou de près relation avec le péché ne puisse pas s'approcher de la gloire de Dieu et souiller la gloire de Dieu. Or, ce sont des êtres qui eux-mêmes sont particulièrement saints, mais il nous est dit qu'ils ont 6 ailes, 2 avec lesquelles ils volent, 2 avec lesquelles ils se couvrent les pieds et 2 avec lesquelles ils se couvrent les yeux, pour ne pas voir la gloire de Dieu. Alors évidemment, ça va très loin. Si des êtres aussi saints que sont les séraphins n'ont même pas la possibilité de contempler la sainteté et la gloire de Dieu, que dire des misérables créatures que nous sommes ? Et voyez-vous, ces êtres de feu, il nous a dit, ils ne cessent de proclamer nuit et jour, saint, saint, Sainte est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. cette expression, on l'appelle la triple sainteté de Dieu. Et cette proclamation de la triple sainteté de Dieu est au centre de ce deuxième temps de la synagogue, qui est celui de la Kedusha. Et finalement, quand on a reconnu que Dieu est le Créateur, on le reconnaît comme celui qui est trois fois saint. Et voyez-vous, cette expression de la triple sainteté de Dieu, on la trouve pratiquement aujourd'hui dans toutes les églises. Je vous disais que beaucoup de nos cultes doivent aussi au culte de la synagogue et au culte de l'église ancienne. Et il y a donc dans toutes les églises pratiquement un temps où cette triple sainteté de Dieu est proclamée. Dans l'église romaine, on appelle ça le sanctus en latin. L'église grecque l'appelle le trisagion. Et il n'est pas jusque dans nos églises issues de la Réforme, même dans les églises évangéliques, où nous avons des chœurs qui rappelle « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Vous connaissez bien sûr des chants de ce type-là, c'est passé aussi chez nous. Et voyez-vous, lorsque le prophète voit cette vision extraordinaire, eh bien, il est affolé. Si, encore une fois, ces séraphins ne peuvent même pas eux-mêmes contempler la gloire et la sainteté de Dieu, alors il s'écrit « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme pécheur ». Et il va y avoir cette purification qui va être effectuée par lui, par le séraphin qui va toucher les lèvres du prophète et ôter son péché et son iniquité. Et ça, le deuxième temps de la synagogue nous dit, eh bien, pour s'approcher de Dieu, il faut être pur, pur de tout péché. Et c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, qui est aussi celui qui anime ces séraphins, qui, comme le dit le texte du psaume 104 que nous avons cité tout à l'heure, « Tu envoies ton souffle et ils sont recréés. Tu envoies ton souffle et tout ce qui est impur, ton souffle, ton esprit, c'est le même mot en hébreu, « ruach », pareil en grec, « pneuma ». Ça veut dire que tout ce qui est impur est consumé. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le prophète a été purifié, ses oreilles s'ouvrent et il entend la voix de Dieu qui parle. Ça ne veut pas dire que jusqu'alors Dieu ne parlait pas, mais à cause de son péché, le prophète était incapable de l'entendre. Et quand il est purifié, il entend la voix de Dieu qui l'appelle pour un service. Et voyez-vous, ça, c'est quelque chose qui était central dans les cultes de l'Église ancienne. Et dans toutes les liturgies anciennes, on retrouve cette place centrale du trisagion, ça veut dire de la proclamation de la triple sainteté de Dieu. Et nous allons voir tout à l'heure que pour s'approcher de la Sainte Seine, les liturgies anciennes disaient, eh bien, si quelqu'un est saint, qu'il s'approche. Seulement si quelqu'un est saint, qu'il s'approche. Mais si quelqu'un ne l'est pas, qu'il se repente. Et là, c'est quelque chose aussi de très important. Et alors, on arrive ici au centre du culte de la synagogue, qui est la lecture de la Torah. Et quand on a proclamé cette triple sainteté de Dieu, il y a au fond de chaque synagogue une armoire spéciale qu'on appelle Aaron Kodesh, ça veut dire l'arche sainte, qui est fermée par un voile, qu'on appelle parochet, et qui rappelle le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ce voile est écarté, et l'on ouvre l'armoire dans laquelle il y a les rouleaux de la Torah. La Torah, ce sont les cinq livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, et ce sont des livres qui sont écrits non pas sur du papier, non pas dans un livre comme nous l'avons là, mais sur des rouleaux de parchemin, tel que cela se pratiquait à l'époque biblique. Et aujourd'hui, la tradition interdit que l'on fasse la lecture publique de la Torah à partir d'un codex, ça veut dire d'un livre imprimé. le texte doit être lu obligatoirement à partir d'un texte, d'un livre écrit sur du parchemin, une peau d'animal, et écrit à la main par des scribes professionnels. Jusqu'à aujourd'hui, dans notre 21e siècle, l'âge de l'informatique et tout ce qui s'ensuit, on continue à écrire la Torah à la main, comme cela se faisait dans l'Antiquité, à l'époque de Jésus. Et la Torah est divisée en 56 sections qui sont lues chaque semaine, dont l'une est lue chaque semaine dans la synagogue, de telle sorte qu'en un an, on a fait toute la lecture de la Torah. Et à chaque semaine correspond ce qu'on appelle une paracha spéciale, c'est-à-dire un texte de la Torah spécial. Et ensuite, quand on a lu ce texte de la Torah, on lit un texte des prophètes qui lui correspond, qu'on appelle Haftara. Vous vous souvenez de ce texte aussi qu'on trouve dans le chapitre 4 de l'évangile de Luc, où Jésus se trouve dans la synagogue de Nazareth et il va être appelé, nous allons voir ce que cela signifie tout à l'heure, à faire la lecture du jour qui se trouve être, pour ce qui est de l'Haftara, c'est-à-dire la lecture des prophètes, qui se trouve être le chapitre 61 du livre du prophète Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et à partir de ce texte, il va prêcher l'Évangile, si l'on peut dire. Et donc, ce livre de la Torah est amené au centre de la synagogue, sur ce qu'on appelle la Bama, une estrade, et il est ouvert au texte du jour. Et là, on va inviter, aujourd'hui on invite 7 lecteurs à faire la lecture du texte. On discute pour savoir si à l'époque de Jésus, il y avait un seul ou 7 lecteurs. Il semblerait qu'à l'époque de Jésus, il n'y en avait qu'un seul. Et on appelle quelqu'un à, ce qu'on a, en hébreu, ça se dit monter à la Torah, puisqu'il y a une estrade, il faut monter par 2 ou 3 marches. Et monter à la Torah, être invité à monter à la Torah, c'est un grand honneur qui vous est fait. Quand on invite quelqu'un à monter à la Torah, c'est qu'on veut l'honorer. Et on l'appelle aussi l'époux de la Torah. Celui qui fait la lecture, donc, est quelqu'un qui a joué un rôle spécial dans la semaine. Si nous reprenons l'exemple de Jésus dans la synagogue de Nazareth, chapitre 4 de l'évangile de Luc, eh bien, Jésus était l'enfant du pays, qui était parti depuis quelques mois, il avait quitté Nazareth pour se rendre à Capernaum, il était de retour avec ses disciples pour ce fameux Shabbat, alors bien entendu, c'était tout normal, on voulait l'honorer et on l'invite à monter à la Torah. Nous trouvons la même chose aussi dans le livre des Actes, où nous voyons Paul, une méthode d'évangélisation qui était la sienne, c'est quand il arrivait dans une certaine ville, il allait directement dans la synagogue du lieu, parce qu'il y avait des Juifs répandus dans tout l'Empire romain, et pratiquement dans chaque ville d'importance, il y avait une synagogue. Et quand il arrivait dans cette synagogue, en tant que visiteur, il était à peu près sûr que c'est à lui qu'on allait demander de monter à la Torah. Il faisait la lecture et ensuite il faisait le drash. Très intéressant de noter qu'on fait toujours, dans la tradition juive, la lecture de la Torah debout. Mais le drash, ça veut dire la prédication, l'explication du texte qui vient d'être lu, on la fait toujours assis. Assis dans un siège spécial qu'on appelle la chaire de Moïse. Vous trouvez ça aussi dans l'Évangile, où Jésus dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse ». Pourquoi fait-on la lecture de la Torah debout et le drash assis ? Parce que la parole de Dieu, elle est infaillible, elle est totalement inspirée, et on veut montrer que c'est véritablement la parole de Dieu, alors on la lit debout. Mais l'explication qui en est donnée, c'est une parole humaine. Elle est faillible, elle est contestable, elle est discutable. Et elle ne peut pas être mise au même rang que la lecture infaillible qui vient d'être faite de la parole de Dieu. Alors, pour montrer que la parole humaine est inférieure à la parole de Dieu, on s'assied pour la faire. Et donc, ici, nous retrouvons dans l'Apocalypse la même chose. Et je vous lis ici ce qui nous est dit au verset 8 du chapitre 4. Les 4 êtres vivants sont remplis, et ils ont 6 ailes, et sont remplis Dieu autour et en dehors, et ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. » Et chapitre 5, « Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au dehors. Alors un livre, quand nous parlons d'un livre, nous, immédiatement, l'image qui nous vient, c'est quelque chose comme ça. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'un livre, à l'époque, c'est un rouleau. Donc c'est ça un livre. Et par conséquent, ce livre doit être déroulé. Il y a des sceaux pour empêcher justement qu'on le déroule. On le déroule, on lit une colonne, on enlève un autre sceau, on lit une deuxième colonne, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'ensemble du livre soit déroulé. Donc ici est amenée dans le temple céleste la Torah du Seigneur, la Bible. Et elle est écrite au-dedans et au-dehors. Ça veut dire qu'il y a ce qui est compréhensible en dehors, et il y a ce qui est voilé, ce qui est caché. Ce qui est, alors excusez-moi, j'ai employé un mot qui n'est pas français, qui est apocalypsé. Parce qu'apocalypse signifie dévoilement, quelque chose qui est voilé. Il y a dans l'écriture un sens qui échappe à la sagacité de l'être humain et qui a besoin d'être dévoilé par quelqu'un qui est capable justement d'en donner l'interprétation véritable. Donc, non seulement de faire la lecture de ce qui est écrit, mais d'en faire le drash, l'explication profonde. Et drash, en hébreu, ça veut dire ça aussi, une explication profonde. Alors, dans ce temple céleste, qui est celui qui va être trouvé digne de monter à la Torah et de faire la lecture? Qui est celui qui va être capable de donner l'explication de ce qui est caché dans la parole de Dieu? Et dans ce immense ciel, parmi ces myriades et myriades d'anges, personne, absolument personne n'est trouvé digne de monter à la Torah et d'être l'époux de la Torah. Et Jean nous dit qu'il pleure beaucoup parce que justement, personne n'est capable de briser les sceaux de ce livre et d'en révéler les secrets cachés. Et un ange le rassure, dit, si, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire, évidemment, Jésus, cet agneau qui est immolé. Et pour l'auteur de l'Apocalypse, c'est une manière de nous dire que Jésus est le véritable sens de l'Écriture. Il est la clé de l'Écriture. Il est la clé de la compréhension de l'Écriture. Et qu'en dehors de Jésus, il est impossible de comprendre toutes les implications de la parole de Dieu. Que l'esprit de Jésus, comme dira un autre texte, est l'esprit même de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Jésus est la clé qui nous permet de comprendre les choses cachées et les choses voilées, et il va révéler justement les secrets de Dieu, les mystères de Dieu qui avaient été cachés aux grands prophètes. Même un prophète comme Daniel n'avait pas compris tout ce qui était les mystères de Dieu, mais maintenant ils vont être dévoilés, ils vont être révélés par l'agneau de Dieu. Et la suite du récit nous montre cet agneau de Dieu brisant les sceaux les uns après les autres. Et chaque fois que les sceaux sont brisés, il y a un cataclysme qui s'abat sur la terre. Et ces cataclysmes, ce sont des cataclysmes qui sont, disons, choses courantes dans l'univers. Le premier, c'est d'abord la parole de Dieu. Deuxièmement, il y a la guerre, il y a ensuite la famine, il y a ensuite la peste, etc. Toutes choses qui font l'histoire humaine. Ça veut dire que chaque fois que les sceaux sont rompus, l'histoire progresse vers son terme. L'histoire progresse vers son accomplissement final, vers les choses dernières, c'est-à-dire vers l'établissement du royaume de Dieu. Et ce sont finalement ces événements-là qui se répètent dans l'histoire humaine, mais au premier plan, la parole de Dieu qui font l'histoire et qui font que l'histoire avance vers son but et vers son terme. Et voyez-vous, c'est très important parce que Jean nous dit d'une certaine manière que ce culte céleste, eh bien, il est celui justement qui fait progresser la création tout entière, cette création de Dieu, vers les fins dernières, c'est-à-dire faire ce temps où toute chose sera nouvelle et où un nouveau ciel et une nouvelle terre seront établis sur la terre. Il faut auparavant que ce vieux monde disparaisse et périsse, et c'est la raison pour laquelle il y a tous ces fléaux qui sont ainsi manifestés. Et là, justement, le professeur Prigent fait allusion à un texte du début du IIe siècle qu'on appelle la Didaché des douze apôtres, c'est-à-dire l'enseignement des douze apôtres aux nations, et qui nous disent qu'au moment de la célébration de la scène dans l'Église ancienne, celui qui présidait la scène disait quelque chose comme ça. Il priait, disait « Seigneur, de la même manière que ces épis qui composent le pain que nous allons rompre, ces épis étaient dispersés dans les vallées, et que les grappes qui sont maintenant contenues, qui composent le vin que nous allons boire, étaient dispersées sur les collines autrefois, et sont maintenant rassemblées sur cette table, dans ce pain et dans ce vin. Qu'ainsi bientôt, Seigneur, toute ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. » Et il ajoutait « Maranatha, périsse ce monde et vienne ton royaume. » Voyez-vous, pour que le royaume vienne, il faut que les royaumes de ce monde, marqués par le péché, par la rébellion que nous avons évoquée hier, disparaissent et périssent. Et le culte céleste fait progresser cette histoire vers ce temps où ce monde, les royaumes de ce monde disparaîtront et périront, et ils seront remplacés par le royaume de Dieu dans une terre nouvelle et dans une réalité nouvelle. Quatrième temps fort de ce culte de la synagogue, c'est ce qu'on appelle la Géoula, c'est-à-dire la rédemption. La foi d'Israël repose sur deux certitudes. La première, c'est que Dieu autrefois a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte pour en faire un peuple libre. Et ça, c'est la grande, comment dirais-je, l'événement central de l'histoire du peuple d'Israël. Et comme le dit le chapitre 12 du livre de l'Exode, qui rappelle cet événement, « Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. » Et lorsque l'on célèbre la fête de Pâques, celui qui préside, le père de famille qui préside la cérémonie, déclare « Aujourd'hui, je sors d'Égypte. » Ce n'est pas seulement mes pères qui autrefois sont sortis d'Égypte, mais c'est aujourd'hui, moi et mes enfants, qui sortons d'Égypte. Car si Dieu n'avait pas fait sortir nos ancêtres d'Égypte, moi et mes enfants, aujourd'hui, nous serions encore esclaves du Pharaon en Égypte. C'est pourquoi il est écrit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui te délivre du pays d'Égypte et de toutes les formes d'esclavage. » Et de la même manière que Dieu renouvelle tous les jours le miracle de sa création, on est conscient dans le judaïsme que tous les jours aussi, Dieu réédite et réitère le miracle de la sortie d'Égypte. Tous les jours, tu as besoin de sortir d'Égypte. Le diable essaie toujours de te mettre des chaînes, des liens. Chaînes du péché, chaînes des séductions, des convoitises, de tout ce qu'on voudra. Et il faut justement ce temps de libération. Dieu est le Dieu libérateur. Et on proclame le nom de Dieu, ce nom qui est imprononçable. Alors, il y a toutes sortes d'hypothèses là-dessus sur le nom de Dieu. Mais il est rédigé en hébreu d'une telle manière que personne ne peut le lire. Alors, on est sûr d'une seule chose, c'est que ce nom, c'est sûrement pas Jéhovah. Ça, on en est sûr. Pour le reste, ce sont uniquement des spéculations et des hypothèses. Et quand on rencontre le nom de Dieu dans la lecture publique de la Torah que j'évoquais tout à l'heure, on le remplace par Adonai, le Seigneur, Hashamayim, le ciel, ou Hashem, tout simplement le nom. Mais la signification du nom de Dieu, elle est très claire. C'est le verbe être dans toute sa plénitude. Un verbe être qui autrement n'existe pas en hébreu. Personne ne peut dire « je suis ». Le seul qui peut dire « je suis », c'est Dieu. Et l'Apocalypse nous donne l'exégèse, l'explication du nom de Dieu. Celui qui est, qui était, et non pas qui sera, mais qui vient. Qui vient parce que quand Moïse est en face du buisson ardent et que Dieu se manifeste à lui, eh bien, Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui arrache la dure servitude à laquelle il est soumis. Et je viens maintenant pour te délivrer. Dieu est celui qui vient. Et quand il vient toujours pour libérer. J'ai entendu tes cris et je viens pour te libérer. Et il vient maintenant, aujourd'hui. Et c'est au présent qu'il faut dire ce texte. Il vient. Et vous retrouvez ça dans l'Apocalypse. Voici, il vient sur les nuées. C'est le début du livre de l'Apocalypse. Et vous retrouvez ça à la fin du livre de l'Apocalypse. Celui qui atteste ces choses dit « Amen ». Je viens, pas bientôt comme on traduit, mais je viens vite. Et cette expression se dit en araméen « Maranatha », cette expression que nous avons rencontrée tout à l'heure dans le culte de l'Église ancienne. Il vient. Il vient sur les nuées. Et c'est le terme justement de cette histoire que l'Apocalypse ici évoque. Mais, comme l'a montré le professeur Prigent, en attendant que le Seigneur vienne au dernier jour, il vient aujourd'hui. Il vient aujourd'hui là où deux ou trois sont assemblés en son nom, et en particulier là où deux ou trois rompent le pain. Et dans l'Église ancienne, quand on avait consacré les espèces, le pain et le vin de la scène, on proclamait justement cette venue du Seigneur en disant « Maranatha, il vient ». Alors il vient demain, au dernier jour. Mais en attendant le dernier jour, il vient déjà. Il vient non pas d'une manière visible, comme ce sera le cas au dernier jour, mais il vient par son esprit d'une manière invisible. Mais quand le peuple de Dieu est assemblé autour de la scène, il vient, il est aussi présent qu'il le sera au dernier jour. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui il est invisible et au dernier jour, tout œil le verra. Et parce qu'il est là, parce qu'il est vivant, parce qu'il est présent, et voyez-vous, il y a tout un débat, vous savez, dans l'Église chrétienne entre l'Église romaine et les Églises issues de la Réforme, c'est ce qu'on appelle la présence réelle. Eh bien, oui, il y a une présence réelle, pas comme le pensent les Romains, mais il y a une présence spirituelle absolument réelle du Seigneur au milieu des siens. Et quand il viendra au dernier jour, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, il viendra, comme le dit le Credo, pour juger les vivants et les morts. Il viendra comme un juge. Et ce n'est pas sans raison que dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11, l'apôtre Paul nous met en garde. C'est pourquoi que chacun prenne garde à la manière dont il prend le pain et le vin. Parce que si nous prenons le pain et le vin indignement, nous prenons un jugement contre lui-même. Et celui qui prend le corps et le sang du Seigneur indignement, eh bien, il va se trouver jugé par le Seigneur comme le monde sera jugé au dernier jour. Et Paul dit, c'est pour ça qu'il y a au milieu de vous beaucoup de malades et d'infirmes et que certains sont décédés précédemment, parce que si nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, nous ne serions pas jugés. Mais si au contraire nous ne le faisons pas, nous sommes condamnés comme le monde sera condamné au dernier jour. Mais à l'inverse, si quelqu'un prend le pain et le corps du Seigneur en état justement de purification, s'étant laissé purifier par ce séraphin dont nous avons parlé tout à l'heure, alors il prend une bénédiction. C'est tout à fait quelque chose de différent. Et c'est aussi la raison pour laquelle, à la fin de la première aux Corinthiens, l'apôtre écrit « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, maranatha ». Maranatha, ça veut dire « le Seigneur vient », et par conséquent, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, si quelqu'un n'est pas dans la communion du Seigneur, il n'a rien à faire ici. Il va connaître le jugement de Dieu, dès maintenant, dès à présent, parce que le Seigneur est celui qui vient, et bien sûr, il sera aussi jugé au dernier jour. Donc ici, le rappel de la sortie d'Égypte, tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie, mais parce que la sortie d'Égypte, il y aura une deuxième sortie d'Égypte. Ce sera un deuxième exode qui aura lieu au temps de la fin. Il y aura un deuxième exode, une deuxième Pâque, un deuxième Moïse, le Messie, un nouveau passage de la mer Rouge, il y aura une nouvelle terre promise, la nouvelle Jérusalem, et il y aura une Torah nouvelle qui sera donnée, que nous appelons l'Évangile. Et quand on termine le culte de la synagogue par cette cérémonie de la Géoula, la rédemption, eh bien, on exprime cette assurance de ce deuxième exode. Et le deuxième exode, si nous avions le temps, nous verrions que c'est le thème du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est la réalisation de ce deuxième exode qui aura lieu au temps de la fin et qui aboutira donc à ce royaume de Dieu. Et je voudrais vous lire ici ce qui concerne la Kedusha, d'abord, et ensuite la Géoula. Béni sois-tu, notre rocher, notre roi, notre rédempteur, créateur des saints. Que force soit à ton nom, notre roi, créateur des êtres qui te servent, toi dont les serviteurs se tiennent dans une hauteur éternelle et proclament d'une seule voix les paroles du Dieu vivant. Tout est bien-aimé, tous les anges, ouvrent la bouche en sainteté et chantent avec mélodie. Ils bénissent, louent et glorifient avec crainte et proclament saint et royal le nom de Dieu le roi. Tous d'une seule voix répondent « Saint, Saint, Saint et l'Éternel » et les êtres vivants et les saints dans un grand tremblement répondent aux séraphins en disant « Béni soit la gloire de l'Éternel depuis le lieu de sa sainteté ». Et la Géoula, eh bien, donc, c'est cette manifestation ultime de la sainteté de Dieu. Et vous la retrouvez dans notre texte ici, chapitre 5, verset 9. Il chante un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté, donc Géoula, ça se dit en hébreu, pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et c'est aussi de cette manière que s'achève le livre de l'Apocalypse. Verset 17 du chapitre 22, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens, vite. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Ça aussi, c'était une expression liturgique qu'on trouvait dans l'Église ancienne. Et voyez-vous maintenant, pour conclure, qu'est-ce que ce Jean veut nous dire en nous décrivant ce culte céleste au centre de son livre de l'Apocalypse ? D'abord, que le culte de l'Église sur la terre est associé mystérieusement au culte des anges dans le ciel. Et nous sommes en communion. Quand nous célébrons notre culte, nous sommes en communion non seulement avec le Seigneur glorifié, l'agneau de Dieu immolé, mais nous sommes en communion avec tous ces êtres vivants, les séraphins, les chérubins, les ophnaïm, les anciens, etc., toute cette multitude de l'armée céleste qui ne cesse de célébrer Dieu nuit et jour. Et de la même manière que le culte céleste fait avancer l'histoire vers son but, fait avancer l'histoire vers son terme, le culte de l'Église fait avancer l'histoire vers son terme. Elle fait avancer l'histoire vers la manifestation du royaume de Dieu. Et Pierre nous dira cette chose étonnante, que nous pouvons hâter le moment du retour du Seigneur. Et nous arrivons à un stade, c'était notre... Ce sera la conclusion aussi de tout ce séminaire que nous avons eu hier. Nous arrivons à un stade où les choses sont devenues tellement difficiles aujourd'hui dans ce monde qu'il n'est plus possible que le Seigneur tarde. Parce que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Et il y a cette promesse du Seigneur, « Je viens vite ». Et l'Église et l'Esprit répondent, « Oui, Amen, viens Seigneur Jésus, Maranatha, parce que le temps est tellement critique qu'il faut que tu viennes. » Et voyez-vous, un moyen de hâter ce temps, un moyen de dire, « Maranatha, viens vite Seigneur Jésus », c'est effectivement de célébrer ce culte avec toutes les créatures célestes qui sont dans le ciel et qui sont en train justement de se préparer pour ce grand jour du festin des noces de l'agneau. Et voilà, donc ici, chacun s'examine soi-même pour voir s'il est véritablement un adorateur en esprit, en vérité, quelqu'un qui est purifié par le sang de l'agneau, né de nouveau, selon la première partie du Yotzer, purifié par le feu du Saint-Esprit, de l'ange, du Séraphin, et quelqu'un qui entre dans cette perspective d'une rédemption qui vient. Je suis celui qui vient maintenant pour te délivrer, et qui déjà brise ses chaînes, secoue les chaînes que le Seigneur a brisées, et déjà se met en route vers la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel comme l'épouse de l'agneau, et cette nouvelle Jérusalem qui sera le lieu de résidence de tous les élus pour l'éternité, quand le Seigneur, comme nous dira l'apôtre Paul, sera tout en tous. Nous allons prier. Seigneur, tu nous fais cette grâce. Nous qui sommes cendre et poudre, nous qui sommes de vils pécheurs, de nous associer à ce culte céleste, de toutes ces créatures, Seigneur, qui sont dans le ciel. Et Seigneur, nous te prions que tu nous aides à lever les yeux pour voir au-delà de ce qui est visible, pour voir cette face cachée de ta parole qui est mise en lumière par l'agneau qui brise les sceaux, qui dévoile ce qui est caché. Et que tu nous permettes, Seigneur, de voir que cet univers que tu as créé est en route vers le royaume, qu'il hâte le pas vers ce royaume. Et Seigneur, avec toutes ces créatures célestes, nous voulons aussi répéter « Maranatha, viens vite, Seigneur Jésus ». Et avec aussi nos frères de l'Église ancienne, Seigneur, te dire, eh bien, Seigneur, viens pour que, de la même manière que les épis et les grappes, autrefois dispersés, sont maintenant rassemblés sur la table de Sainte-Seine, toute ton Église soit bientôt rassemblée dans ton royaume des extrémités de la terre. Et avec nos frères, nous te disons, et avec toutes les créatures célestes, périsse ce monde, vienne ton royaume, Maranatha, viens, Seigneur Jésus.